Les médecins de l'hôpital Sainte-Justine proposent aux parents de faire de Léna la première patiente d'une nouvelle étude clinique appelée DECGEN. Ils acceptent.
Quand vous tombez avec votre fille dans le vide, puis là, vous espérez un remède, vous priez le ciel n'écoute pas, priez la terre n'écoute pas.
La science non plus ne pourra rien. La maladie va l'emporter et DECGEN a été suspendu par Santé Canada un an après son lancement. 76 violations à la loi, dont 23 de niveau critique, qui représentent un risque excessif menaçant les droits, la santé et la sécurité des patients.
C'est un extrait donc de ce reportage de Pascal Turbide, journaliste à l'émission Enquête de Radio-Canada. Donc, c'est assez accablant. Et on va avoir tout de suite la réaction de l'hôpital Sainte-Justine à ce reportage en la personne du docteur Marc Girard, qui est directeur des services professionnels au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Bonjour, docteur Girard.
Oui, bonjour.
Docteur Girard, là, quand on entend Santé Canada décide finalement après inspection, là, ils identifient 76 violations de tout genre dans l'étude clinique, dont 23 de niveau critique, ce qui constitue, et je cite là, les inspecteurs de Santé Canada, un danger pour les enfants ou un risque excessif qui menace leurs droits, leur santé et leur sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter une fois que tu as dit ça? Je veux dire, vous avez visiblement, il y a quelque chose que vous avez très, très mal fait dans cette étude-là. Là.
Il y a beaucoup à ajouter. Je vous dirais qu'il y a deux choses, je pense, qu'il est important de distinguer. Dans un premier temps, l'intégration de la recherche aux soins, c'est pas toujours simple. Puis parfois, ça peut être une source là, de confusion. Dans un premier temps, je pense qu'il est important, et Santé Canada va le dire de façon très claire dans son rapport de 2018, parce que celui que vous avez cité, c'est sa première évaluation en 2016. En 2018, il va être très, très clair pour préciser que le projet de recherche n'a pas eu d'impact sur la santé et la sécurité des patients à l'égard de leurs soins et que ce protocole-là qui avait été mis en place n'a pas modifié l'évolution de la maladie des enfants.
OK, donc ils se sont trompés dans leur rapport de 2016?
Ils ne se sont pas trompés. On parle au plan clinique, il n'y a pas eu des impacts. Santé Canada, par ailleurs, est un organisme important pour lequel on a beaucoup d'estime et de respect qui a comme rôle de s'assurer que les protocoles sont suivis. Je vous donne un exemple. Si je fais un prélèvement et que j'indique ce résultat-là dans le dossier clinique, Santé Canada ne l'acceptera pas. Il va falloir que le prélèvement ou le résultat soit intégré à un dossier qu'on dit de recherche. Et c'est parmi les choses qu'ils ont observées. Et dans les 76 observations, donc ce n'est pas 76 fautes, c'est 76 observations, ils ont observé que, par exemple, telle donnée se retrouvait dans le dossier clinique ne se retrouvait pas dans le dossier de recherche. Que l'infirmière qui avait inscrit ce résultat-là était une infirmière qui n'était pas de recherche. L'exemple qui a été cité dans le reportage, par exemple, sur médicaments périmés, ce n'est pas le médicament qui est périmé. Le patient devait recevoir le traitement pendant 4 heures. Il l'a reçu pendant 4 heures et quart. Au plan clinique, ça n'a pas d'impact. Au plan de la recherche, ça a un impact. Et c'est considéré comme étant un manquement, une lacune à un protocole de recherche. Et c'est ce que Santé Canada est venu dire.
Docteur Girard, donc il y a eu des lacunes. Est-ce que vous les reconnaissez qu'il y a eu des lacunes, là?
Au niveau au niveau du protocole, Santé Canada était légitimé de dire, voilà, on doit cesser et de remettre des balises beaucoup plus claires par rapport à cet encadrement et cette gestion du protocole de recherche. Et ça, ils avaient tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'en 2016, et on était d'accord d'ailleurs, avant d'avoir leur rapport, nous avions cessé ce projet-là là, qui touchait 6 patients à ce moment-là.
OK, mais
donc, on a cessé immédiatement et depuis, je dirais dans les 2 dernières années, on s'est vraiment mis à la tâche pour modifier, s'assurer que justement ces données-là et que les gens comprenaient bien, je dirais nos équipes de soins comprennent bien que ce qui était des soins était une chose et ce qui était de la recherche, c'était autre chose par rapport à la captation des données. Mais pour ce qui est des soins aux malades, ces soins-là ont toujours, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réagi, parce qu'on veut quand même que nos patients, que nos familles soient confortables et soient rassurés que les soins cliniques qui ont été donnés pendant toute cette période de temps-là, et encore, sont des soins de qualité et Santé Canada reconnaît dans son rapport de 2018 que les soins étaient de qualité, qu'on n'a pas modifié le pronostic par ce protocole-là.
Oui, mais docteur Gérard, c'est parce que là, vous nous dites dans le fond, oui, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec l'étude, mais faites-vous en pas, ça n'a eu aucun impact sur le traitement qu'on a donné aux enfants. On a continué à bien soigner les enfants. Mais moi, il n'y a pas personne qui dit que vous avez mal soigné les enfants. Le but du reportage, c'est de dire que la manière avec laquelle vous avez géré cette étude-là n'était pas adéquate. Et je vous repose la question, est-ce que vous reconnaissez que la gestion de Sainte-Justine dans cette étude expérimentale n'a pas été adéquate, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement et donc qu'il va falloir corriger à l'avenir? Est-ce que vous reconnaissez...
On reconnaît qu'il y a place à beaucoup d'améliorations.
Bon, alors dites-moi où. Docteur Gérard, dites-moi où. Vous dites, enfin, ça a pris 3-4 minutes. Ça a pris 3-4 minutes pour que vous me disiez il y a place à beaucoup d'améliorations. Voulez-vous me dire maintenant où est-ce que vous devez vous améliorer?
Améliorer, première des choses, il y a vous savez que ce qu'on appelle un gestionnaire de qualité des projets de recherche. Ça, c'était fait beaucoup à l'interne. On a pris la décision qu'il y ait maintenant une organisation, une structure externe au projet de recherche. Et cette personne-là va être dédiée totalement à la gestion de la qualité des données, la qualité de la mise en place des protocoles. Ça, c'est déjà nommé. Il y a quelqu'un qui est déjà en place. On a tout revu notre structure de soutien à la recherche clinique en ajoutant des ressources pour s'assurer qu'à quelque part, la recherche clinique soit totalement indépendante des activités cliniques, pour s'assurer justement qu'il y ait bien un départage, si vous voulez, des deux éléments, la clinique soit bien soignée et que du côté de la recherche, qu'elle soit aussi rigoureuse. Et vous savez, je pense que c'est important que les gens sachent aussi que c'est excessivement pointilleux, précis la recherche, et il faut avoir ce même souci. Et ça, c'est clair qu'on a mis en place des structures à l'interne auprès des équipes déjà infirmières de recherche et structures de recherche à l'interne dans notre centre de recherche. Et on a mis aussi une organisation externe qui va évaluer la qualité.
OK. Moi, je vais vous dire, là, puis on va se laisser là-dessus par la suite, ce qui m'a particulièrement choqué là quand j'ai pris connaissance du reportage, c'est le fait que les familles des enfants qui ont participé donc à cette étude clinique, donc qui ont subi dans le fond le traitement expérimental que vous avez mis en place, ces familles là n'ont jamais su, les parents des enfants que vous avez approchés n'ont jamais su que l'étude avait été suspendu par Santé Canada. Et ça, franchement, je ne l'accepte pas. Est-ce que vous reconnaissez votre tort? Est-ce que vous reconnaissez votre tort aussi?
On vous donne totalement raison et dorénavant, il est clair que les familles qui participeront, s'il y a quoi que ce soit dans l'évolution du projet, ils en sont informés.
Et dites-moi en terminant, est-ce que malgré les erreurs que vous reconnaissez, est-ce qu'il y a quand même du bon qui sera sorti de cette étude-là?
Je dirais, on n'a pas suffisamment, je vous dirais, par rapport à un projet qui aurait été terminé, parce que comme le projet a été cessé et qui n'a pas été repris, il est difficile de faire des conclusions qui vont au-delà de 6 patients qui ont été traités. Par ailleurs, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui ont été faits, et même pour certains patients, je dirais, à la relecture des dossiers, à la relecture des données que l'on a, il y a déjà des hypothèses qu'on peut soulever. On ne pourrait pas arriver à des faits, là, c'est pas suffisamment, on n'a pas assez de données pour arriver à des faits, mais il y a déjà des orientations qui font que dans une prochaine étude, on pourra faire mieux et peut-être aller plus loin là, dans l'obtention de résultats.
Docteur Marc Girard, directeur des services professionnels au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Merci, docteur Girard.
Merci, bonne journée.
On va aller rejoindre Bryn Williams-Johns, qui est directeur des programmes de bioéthique et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Monsieur Williams-Johns, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été convaincu par ce que vous venez d'entendre de la bouche du docteur Girard de l'hôpital Sainte-Justine?
Bien, je suis heureux d'entendre cette reconnaissance qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait une énorme amélioration à faire dans la gestion et dans le processus. Moi, j'ai évalué des dossiers pour ce reportage qui datait, oui, de quelques années, mais qui parlait d'une contexte particulier où il y avait des problèmes majeurs avec leur gestion d'un essai clinique.
Parlez très, très concrètement, là, M. Williams-Jones, pour l'auditeur moyen qui nous écoute, là, pour qui c'est un peu du chinois tout ça, là, en quoi le protocole de recherche qui n'est pas suffisamment respecté est-il à ce point grave? Pourquoi est-ce que c'est grave ce qui s'est passé à Sainte-Justine?
C'est grave quand un citoyen qui arrive à l'hôpital avec un enfant malade et qui cherche un traitement, surtout dans un contexte extrêmement aigu comme un cancer, qu'ils ont l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. Et donc, ils ont besoin de savoir, est-ce que c'est quelque chose d'expérimental ou est-ce que c'est un traitement où il y a une haute chance de réussite? S'il y a une faible chance de réussite, on a besoin de savoir pour prendre une décision et de reconnaître que peut-être je fais ça pour le bien commun, pour le développement des connaissances, sachant qu'il n'y a peut-être aucune chance que mon enfant va bénéficier de cette étude, de cette recherche, parce que c'est expérimental.
Dans le fond, ce que vous dites, c'est que les enfants qui ont été recrutés, entre guillemets, pour cette étude-là, d'abord, c'était des enfants qui étaient très, très, très malades. Les parents cherchaient une bouée de sauvetage parce que dans certains cas, ça faisait plusieurs traitements. Ils étaient un peu... c'était comme le dernier recours. Et là, on leur offre de participer à cette étude expérimentale. Et ce que vous dites, c'est que dans le message, dans l'information qui a été transmise aux parents on leur a peut-être, et aux enfants, on leur a peut-être pas donné leur juste. On leur a peut-être fait croire, dans le fond, que, qu'il y avait des réelles chances de rémission, alors que dans les faits, les chances de rémission étaient très, très minces.
Tout à fait. Le défi dans une situation comme ça, c'est d'être extrêmement transparent avec les risques et le faible chance d'avoir des bénéfices. De dire, regarde, on fait ça pour le bien commun, c'est la nature de la recherche, il y a toujours des imprévus, il y a des mix, c'est la raison qu'on fait la recherche. Mais de soutenir un faux espoir, ça c'est injuste. Les gens ont besoin, pour avoir confiance dans le système de la science, dans les institutions, d'avoir leur juste. Parce que sinon, on met en péril tout le projet commun de le développement des connaissances.
Et vous trouvez donc que dans ce cas-ci, on a entretenu des faux espoirs ou on a donné des faux espoirs aux parents et aux enfants?
Oui, parce que quand on voit ça belle dans le reportage, quand on parle d'une façon répétitive le terme rémission, ça, c'est un espoir majeur. Au lieu de parler de ça, on dit oui, c'est peut-être une possibilité, mais c'est une petite possibilité. C'est pas quelque chose qu'on répète tout le temps. On aide le patient à savoir qu'est-ce qui est possible. Pour les parents, quand c'est un enfant jeune, de prendre une décision éclairée. Sinon, la personne n'est pas en mesure de participer à plein gré dans ce projet et de voir s'il y a peut-être autre choix à faire, d'autres études ou même de refuser de participer dans une étude parce qu'il y a d'autres moyens d'avoir un fin de vie avec dignité.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Dans le fond, vous dites, la façon dont ça a été présenté, ça a pu les amener à adhérer à ce projet-là parce qu'ils se disaient, ah, peut-être que dans le fond, ce projet-là va permettre, va nous permettre de sauver la vie de notre enfant.
Oui.
Et dans le fond, dans certains cas, j'utilise ces mots-là, peut-être que c'est des mots un peu forts, mais il y avait peut-être une part de fausse représentation dans la façon avec laquelle ça a été présenté aux enfants et aux parents. Et s'ils avaient vraiment eu leur juste, ils auraient peut-être refusé de participer à ce protocole de recherche. Ils auraient peut-être choisi une autre voie, peut-être une aide médicale à mourir ou encore essayer autre chose ailleurs qu'à l'hôpital Sainte-Justine.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est bien démontré dans le reportage. C'est de donner les gens leur juste, le permettre de prendre une meilleure décision. Oui, il y aura toujours un espoir. En tant que parent, c'est ce qu'on cherche dans une situation aussi grave. Mais on a besoin également de mettre ça en équilibre avec toutes les données possibles pour prendre une décision. Parce que c'est partie du contrat social du chercheur avec le participant. C'est de dire la vérité et de les soutenir pour bien choisir.
Bryn Williams-Jones, directeur des programmes de bioéthique, professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Dans un instant, à la politique, et on m'informe à l'instant qu'il va y avoir un point de presse d'ici quelques minutes du Parti libéral qui était réuni en caucus. J'ai l'impression que d'ici quelques minutes, on va savoir qui les députés du Parti libéral ont élu comme chef intérimaire. Je pense qu'on va être capable de vous annoncer ça en direct dans un instant.